Chers amis, bonjour. Dans notre parcours sur les paraboles, vous vous souvenez que la fois passée, j'avais rapidement souligné, à la faveur du tableau récapitulatif de la page 30 que je vous avais donné, la dimension d'invitation à une option, à un choix qu'engagent les paraboles. C'était dans l'esprit, je le disais, des deux voies du Deutéronome, chapitre 30, choisis donc la vie, le chemin de la vie plutôt que le chemin de la mort, choisis la bénédiction plutôt que la malédiction, ou encore bien illustré dans le tout premier psaume, le psaume 1, qui est à l'enseigne d'une béatitude. Heureux est l'homme qui ne va pas au conseil des méchants, mais au contraire se complaît dans la loi du Seigneur. Ce qui veut dire que s'il y a un choix à faire, parfois exigeant, finalement, son horizon, c'est notre béatitude. Puis, nous avions poursuivi la série des paraboles qui invitent à la vigilance et qui conviennent particulièrement à ce temps liturgique. Nous venons de terminer l'année liturgique, nous entrons dans le temps de l'Avent et nous savons que cette invitation à attendre, à veiller, à prier est fort marquée dans tous ces textes. Et dans ce sens-là, nous avions poursuivi les paraboles d'invitation à cette veille attentive à travers les paraboles du portier aussi. En Marc 13, c'était le numéro 21 sur votre tableau, les serviteurs vigilants, précisément qualifiés de heureux, ces serviteurs que le maître trouvera à leur tâche lorsqu'il viendra. Et puis par contre, la porte fermée pour ceux qui voudraient entrer mais n'ont pas fait la volonté de Dieu. C'était le numéro 23 dans la série de nos paraboles. Alors pour reprendre un peu cette perspective de l'attente, je vous lis simplement un poème que ceux qui fréquentent l'église auront peut-être trouvé dans le Bonjour, qui redit en des mots simples quelques accents de cette perspective d'attente de l'avant. C'est sur vos feuilles de route, je vous l'ai envoyé, à la page 34. Veillons à travers les saisons. Que les arbres enfin fleurissent, ou que du soir déjà faiblisse la lumière sur l'horizon, restons en tenue de service. Ne négligeons pas l'oraison. Que le portier ne s'assoupisse, que notre cœur ne s'alourdisse, tenons-nous prêts à tout moment. Nous ne savons pas trop comment ni quand du maître de maison le doux visage à l'improviste nous redira que Dieu existe. Jour de tisons ou fenaisons, chant du coq ou cri dans la nuit, il nous reviendra de voyage. Il nous est parti sans bagage, hormis son amour infini d'un ciel qui bénisse la terre. Dans l'attente de son retour, au fil des ans, au fil des jours, restons les témoins des mystères du royaume au cœur de ce monde. Que l'Évangile ensemencé poursuive l'œuvre commencée par sa grâce en glèbe féconde. Vivons son amour à jamais, qu'à l'heure où reviendra le Maître, son apparaître à nos fenêtres, flamme d'hiver, bourgeon de mai, du vrai bonheur soit le prélude, au serviteur donne la joie. Que son jour, son heure nous soit l'entrée dans sa béatitude. Voilà, petite paraphrase poétique, mais qui sera attentif, vous l'aurez remarqué, à un certain nombre de mots-clés et d'invitations que nous avons rencontrés dans diverses paraboles. Puis nous allons passer, si vous le voulez, aux paraboles de prévoyance, dont nous avons déjà fait très rapidement à la fin du cours précédent une rapide lecture. C'était sur votre feuille numéro 30, les paraboles numérotées 24 et 25, à savoir l'invitation à bien prévoir ce qu'on veut faire pour construire une tour, ou bien si l'on part en guerre et qu'il vaut mieux conclure un traité de paix. Je vous invite à en reprendre le texte que vous aviez sur vos pages 33. C'est en Luc 14, donc. Alors, on a deux images. La construction de la tour et celui qui part en guerre. Il n'est pas rare que Luc insiste sur une perspective par des redoublements proches. C'est le cas ici. Il enchaîne deux images, mais qui visent la même pointe d'insistance, ou bien parfois des épisodes à distance. Alors, pour donner quelques exemples de ce goût de Luc pour des redoublements, mais qui visent à bien ancrer les choses dans notre mémoire, dans notre cœur, je vous rappelle qu'il y a souvent des scènes, des tableaux, voire des paraboles, des discours, qu'il reprend ainsi, comme en deux temps. Par exemple, dans les récits de l'enfance, qui sont propres à Luc, dans la manière de raconter l'enfance et la naissance de Jésus, bien, autour de la double figure du précurseur d'une part, Jean-Baptiste, et de Jésus, il y a déjà une annonce à Zacharie dans le temple par l'ange Gabriel, et puis une autre annonce par le même ange Gabriel à Marie, à Nazareth. Il y a l'évocation de la naissance de Jean-Baptiste qui réjouit. Et puis, on va voir l'évocation de la naissance de Jésus. À cette occasion, on a des cantiques, le cantique de Zacharie, qui bénit le Seigneur pour la naissance de ce fils, Jean-Baptiste, le cantique de Notre-Dame, etc. Donc, on voit qu'il y a comme des diptyques qui sont articulés pour faire entrer dans cette perspective de la joie de ce qui est annoncé, la naissance du précurseur et la naissance de Jésus. Ou bien en Luc, à la fin de son évangile, cette fois-ci en Luc 24, nous voyons qu'aux disciples d'Emmaüs, Jésus prend le temps d'expliquer dans les Écritures ce qui le concerne. Et puis, juste après, une fois que ceux-ci sont de retour, le cœur tout brûlant, à Jérusalem, Jésus, pour les 11 autres qu'on retrouve à Jérusalem, reprend ce qui le concerne, dit Luc, dans les Écritures, à savoir la loi, les prophètes et les psaumes, la totalité de l'Écriture. Donc, cette explication de l'Écriture, aussi bien pour les disciples d'Emmaüs que pour les autres ensuite. Nous avons vu au chapitre 15 qu'il y a cette double figure de la brebis perdue et puis de la drachme perdue et retrouvée. L'évocation d'une figure masculine, le berger, d'une figure féminine, la femme dans sa maison. Pour les envois des disciples en mission, chez Luc, au chapitre 9, on assiste à l'envoi que Jésus fait des 12, et puis au chapitre suivant, chapitre 10, c'est l'envoi des 70, des 70 disciples. Il y a chez Luc, en termes de discours sur la venue du Fils de l'homme, de discours eschatologique aussi, comme une insistance double au chapitre 17 déjà. Il fait comprendre comment le Fils de l'homme reviendra au cœur de nos histoires et de nos histoires personnelles. Et puis au chapitre 21, comment le Fils de l'homme reviendra au cœur de l'histoire à échelle, cette fois-ci universelle, l'histoire du monde. Et nous verrons aujourd'hui encore cette insistance double à propos de l'invitation à persévérer dans la prière. Nous allons avoir deux petites paraboles propres à Luc, celle de l'ami importun qui ne craint pas de déranger l'autre en pleine nuit pour avoir du pain, et de la veuve importune qui ne craint pas d'insister auprès du juge pour obtenir justice. Ainsi donc, nous avons ici alors au chapitre 14 aussi comme un double mouvement à travers cette double parabole. Je la lis en la situant dans son contexte, et vous avez le texte sous les yeux, sur votre page 33. « Luc 14, le verset 25. Or, faisait route avec lui des foules nombreuses. Et s'étant tourné, il dit à leur adresse, « Si quelqu'un vient auprès de moi et ne hait pas son propre père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs et encore aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne soutient pas sa propre croix et ne vient pas derrière moi, il ne peut être mon disciple. Car qui hors de vous, voulant bâtir une tour, s'étant assis d'abord, ne calcule-t-il pas la dépense pour voir s'il a le nécessaire pour l'achèvement ? De peur que, comme il a mis un fondement et n'a pas la force de terminer, tous ceux qui l'observent commencent à le bafouer en disant « Cet homme commença à bâtir peu à peu et n'eut pas la force de terminer. » Ou bien quel roi, faisant route pour rencontrer à la guerre un autre roi, s'étant assis d'abord, ne délibérera-t-il pas pour voir s'il est capable, avec 10 000, de venir à la rencontre de celui qui vient sur lui avec 20 000. Sinon, certes, comme il est encore loin, ayant envoyé une ambassade, il demande les conditions pour une paix. Ainsi donc, tout homme d'entre vous, qui ne se sépare pas de tout ce qui se trouve à lui-même, ne peut être mon disciple. Il est donc beau le sel, or si le sel même s'est affadi, avec quoi sera-t-il assaisonné ? Ni pour la terre, ni pour le tas de fumier, il n'est apte, on le jette dehors, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Je vous ai ajouté ce petit passage, à la fois pour compléter la page, mais aussi parce que on passe à quelque chose d'autre qui paraît surprenant, mais on comprend que dans la foulée de ce qui a été dit, il s'agit d'être un disciple qui ne s'affadit pas à travers cette image, entre autres. Je viens aux paraboles elles-mêmes. Le contexte, vous voyez que c'est encadré par le souci qu'a Jésus de permettre à ceux qui le suivent d'être vraiment ses disciples. Au verset 27, c'est dit deux fois, si on ne consent pas les détachements demandés, eh bien on peut être son disciple. Et c'est la conclusion, d'ailleurs, au verset 33, qui reprend exactement ces termes. Se séparer de tout ce qui est à soi-même pour être son disciple. Mais ce qui est étonnant, c'est que les images, je le disais la fois passée déjà, sont des images de prévoyance. Et Jésus fait un peu comprendre que la meilleure prévoyance pour arriver à le suivre, et le suivre jusqu'à la croix, c'est quand même cela qu'il évoque au verset 27, eh bien, c'est de d'abord consentir à être libre de toute attache qui entraverait notre route. Des foules nombreuses font route avec Jésus, verset 25, et il se retourne, c'est souvent quelquefois dans l'évangile de Luc une attitude pour manifester l'attention que Jésus porte à ceux auxquels il va s'adresser, il dit à leur adresse, et il s'agit finalement d'un être disciple qualifié comme venant à Jésus. D'abord, venant auprès de lui, si quelqu'un vient auprès de moi, eh bien, il va d'abord haïr son propre père, sa mère, haïr, ça nous paraît une forme vraiment exagérée. En fait, Jésus parle en araméen, ses disciples. Et en araméen, on a du mal à exprimer un comparatif, c'est-à-dire à dire aimer moins, aimer plus. Alors, pour dire qu'il y a un amour beaucoup plus radical à consentir que, encore que celui, pourtant déjà grand, de nos attaches familiales, Jésus dit, eh bien, il faut pouvoir haïr son propre père, sa mère, sa femme, ses enfants, pouvoir les aimer moins que cet amour qui doit prendre le premier plan, vraiment, l'amour de Jésus. Et aussi, sa propre vie. Jésus ne nous demande pas de nous mépriser nous-mêmes, mais il y a, comme il le dit ailleurs, celui qui cherche à tout prix à sauver sa vie à vue humaine, et bien la perdra. Par contre, celui qui accepte à la suite du Christ d'avoir à certains moments le sentiment de devoir donner jusqu'au bout sa vie, de la perdre, et bien c'est celui-là qui la gagnera. Donc c'est la condition pour être son disciple. Et il s'agit non seulement de venir auprès de lui, c'est le verset 26, mais au verset 27, de venir derrière lui. Derrière. Ça sera l'expression reprise à propos de l'épisode de Simon de Cyrène, qui se trouve dans les trois, Matthieu, Marc et Luc. Mais Luc dit à ce moment-là que Simon de Cyrène est amené à prendre la croix derrière Jésus, c'est propre à lui. Donc, il s'agit de soutenir sa propre croix, non pas par ses seules forces, mais au contraire à la suite de Jésus, derrière lui, dans son sillage. Concernant le venir auprès, je vous lis une petite référence que j'avais notée de Luc 6, 47. C'est à la fin du discours dans la plaine, qui vous en souvenez est un peu l'équivalent du discours, enfin, une différence en plus bref, du discours sur la montagne chez Matthieu, mais qui se termine de la même manière par l'invitation à ne pas se contenter de dire « Seigneur, Seigneur », mais consentir à faire ce qu'il dit. Luc 6, 46 « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis ?» Tout homme qui vient auprès de moi et entend mes paroles et les fait, je vous suggérerai à qui il est semblable à un homme bâtissant sans cesse une maison, creusa, approfondit et mit un fondement sur le roc. Donc, un venir auprès qui, là, signifie justement une décision de s'appuyer sur le Christ en faisant ses paroles. Et cette expression qu'il reprend ici, si quelqu'un vient auprès de moi, pas simplement par curiosité, mais pour vraiment s'attacher à moi, eh bien, il doit d'abord consentir ses détachements. Et il doit pouvoir aussi porter jusqu'à sa propre croix. Déjà, les auditeurs de Jésus savaient malheureusement ce qu'était le supplice de la croix. Dans la révolte de Judas le Galiléen, de l'an 6, déjà les conséquences avaient été quand même la mise à mort, la crucifixion d'un certain nombre de rebelles. Donc c'était quand même un supplice cruel et déjà connu. Ce qui peut expliquer que Jésus, dès avant de souffrir sa passion, d'être lui-même mis en croix, peut utiliser cette expression. Bien sûr, après sa propre crucifixion, sous la plume de l'évangéliste Luc, et la pierre a tout son relief. Alors les deux images, qui hors de vous, il ne dit pas simplement qui en général, il s'appuie sur l'expérience de ses interlocuteurs, au verset 28. Qui hors de vous, voulant bâtir une tour, et il reprendra dans sa conclusion, verset 33, ainsi donc, tout homme d'entre vous, qui ne se sépare pas de tout ce qui est à lui-même, ne peut être mon disciple. Donc quand Jésus dit, pas simplement en général, mais vous, il table sur l'expérience qu'on a, et en l'occurrence, ses auditeurs peuvent bien comprendre l'image de la tour, d'autant plus qu'au chapitre 13 a été évoqué, donc au chapitre précédent, en Luc, la tour de Siloé, qui s'est écroulée et a causé des morts. Et Jésus, là, faisait réfléchir en disant, il n'était pas nécessairement plus fautif que d'autres. Ce n'était pas nécessairement un châtiment, c'est un triste fait divers, un accident, comme ça peut arriver, mais en tout cas, il rappelle cela pour dire, eh bien, même si cela n'était pas plus fautif que vous, prenez conscience que vous avez à vous convertir. Ça, c'était au chapitre 13. Ici, c'est une perspective différente, dans laquelle il part de la tour. D'abord, s'asseoir, on sent qu'il faut prendre le temps, ne pas se précipiter, pour calculer la dépense, et puis s'arranger pour qu'on puisse aller au-delà du fondement, de peur que s'il a mis un fondement, il n'a pas la force de terminer. C'est une expression que Jésus utilise parfois, par exemple en 13-24, nous l'avons rencontré, lutter pour entrer par la porte étroite, parce que beaucoup chercheront à entrer, mais n'auront pas la force d'entrer. Ici, c'est avoir la force de terminer la construction de cette tour. Ou bien quel roi partant pour la guerre contre un autre roi? Là, il peut y avoir des allusions justement aux royautés que son public connaît. guerre dont ils entendent parler. Notre roi s'étant assis d'abord, lui aussi. On voit que les deux choses sont construites, même stylistiquement, avec des parallélismes, des symétries. S'étant assis, d'abord, il délibère pour voir s'il est capable eh bien, d'affronter celui qui avait bien à lui avec 20 000 hommes, alors qu'il n'en a que 10 000. Et Jésus suggère la solution de sagesse, bien sûr, envoyer d'abord une ambassade pour demander les conditions de la paix. Donc prendre le temps de s'asseoir, de se poser pour mesurer ce que va requérir, ce à quoi on s'engage. Et ici, Jésus, au début et à la fin, dans la conclusion qu'il en tire, c'est il faut savoir consentir les détachements nécessaires ou sinon, à un moment donné, on sera entravé par des liens qui empêcheront de suivre Jésus jusqu'au bout. Et puis dans la foulée, comme je le disais, l'image du sel ici placé et qui peut faire comprendre dans ce contexte-ci que le disciple précisément qui va jusqu'au bout est celui qui ne se laisse pas affadir par les épreuves, par l'épreuve du temps. Voilà pour ces deux paraboles de prévoyance, mais aussi d'invitation au détachement. Et retenons ce thème parce que il est cher à Luc aussi, détachement ici des affections immédiates et de sa propre vie, mais il insistera aussi, nous le verrons encore, sur le détachement de cette entrave que peuvent constituer les richesses. Le détachement, la sobriété pour mieux suivre le Christ d'un cœur, d'une situation allégée, est important dans l'évangile de Luc. Si vous le voulez, nous passons alors maintenant à une autre thématique. J'ai retenu trois paraboles qui nous parlent chez Luc aujourd'hui de la prière. Il y a là d'abord, de manière générale, une insistance de Luc. Il y a quelques thèmes, et nous les voyons affleurer progressivement dans les paraboles, qui sont chers à Luc, et parmi ces thèmes qu'on rencontre souvent, c'est l'insistance sur la prière. D'abord, il y a la prière du chrétien, que l'on trouve chez Luc dans divers passages, qui ont parfois un équivalent chez Matthieu, mais pas nécessairement toujours. Et on va repérer les passages qui lui sont propres. Je vous lis quelques expressions ainsi où l'on voit que Jésus insiste sur l'importance de la prière dans la vie chrétienne. Une perspective qui de nouveau convient bien à ce temps de l'avant dans lequel nous entrons. C'est d'abord en 6:28, c'est la prière là pour les ennemis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez même pour ceux qui vous calomnient. On ne sait pas toujours trop que faire vis-à-vis des ennemis ou des rancœurs qu'on porte. Le Seigneur nous dit, vous pouvez au moins prier pour eux. En 10:2, donc ce passage-là, cette invitation se trouve également chez Matthieu. En Luc 10, au verset 2, le Seigneur justement vient de désigner les 70 disciples, les envoya par deux dans toute ville où lui-même allait passer. Et il leur disait, pour les envoyer en mission ainsi, « La moisson est nombreuse, les ouvriers sont peu nombreux, implorez le Seigneur de la moisson qu'il envoie des ouvriers vers sa moisson. » Là, c'est la prière, sous le vocable fort de l'imploration, la prière pour obtenir que le Maître suscite des ouvriers, envoie des ouvriers en sa moisson. Là aussi, on a un équivalent chez Matthieu. Alors, au chapitre 11, nous allons, et nous y reviendrons dans un instant, à ce passage où Jésus enseigne à ses disciples comment prier. C'est en le voyant prier qu'il nous pose la question et il leur enseigne le Notre Père. Nous y reviendrons dans un instant. et à notre Père sous une forme un peu plus brève que la forme liturgique que nous connaissons qui nous vient de Matthieu. Alors un passage qui est tout à fait propre à Luc et que nous allons parcourir dans un instant, c'est précisément la parabole qui suit l'enseignement du notre Père, la parabole de l'ami important qui ne craint pas de venir déranger l'autre pour obtenir du pain. Et Jésus fait comprendre que l'insistance dont il est question ici, c'est l'insistance de la prière. Puis, dans la foulée, on va avoir les versets 9 à 13 qui usent d'un argument qui s'appuie aussi sur leur expérience. Un père ne va pas donner un scorpion ou un serpent à ses enfants, eh bien, à plus forte raison, le Père Céleste exaucera-t-il la prière. Puis au chapitre 18, c'est l'épisode de la veuve importune, cette fois-ci, l'ami important, une figure masculine, au chapitre 18, la veuve importune, une figure féminine, et les 8 premiers versets nous mettent ainsi en scène. Et Jésus y insiste, c'est pour faire comprendre qu'il faut prier en tout temps sans se décourager. En 21-36, on aura encore cette invitation à prier dans la perspective du jour du Seigneur. C'est en 21, verset 36, « Gardez les yeux ouverts, implorant à tout moment » pour avoir la force d'échapper à ce qui doit arriver et d'être placé debout devant le Fils de l'homme. Prier pour être trouvé ainsi digne et debout devant le Fils de l'homme. Mais ce qu'il y a en plus chez Luc, ça, donc, c'était des invitations dans la part de Jésus aux foules ou à ses disciples à prier régulièrement. Mais il y a aussi les mentions de la prière même de Jésus dans l'évangile de Luc. Et cela, Luc a à cœur d'y insister, et c'est toujours dans les étapes spécialement importantes du ministère de Jésus, dans des moments décisifs. Au baptême, je prends le passage en question rapidement, lorsque Jésus vient d'être baptisé, Luc nous dit, et il a cette notation qui lui est propre par rapport à Matthieu, « Or il arriva, pendant que tout le peuple était baptisé, comme Jésus aussi avait été baptisé et était en train de prier. Le ciel se fut ouvert, l'Esprit Saint descendit, la voix du ciel. » Donc c'est ce qu'on appelle la théophanie, c'est-à-dire la manifestation divine du baptême qui confirme Jésus dans son être filial. Et ce n'est pas à n'importe quel moment, c'est justement au moment où Jésus est en prière. Et on peut penser, bien sûr, que sa prière se tourne vers son Père. C'est à ce moment-là que le Père choisit pour que l'Esprit descende du ciel et repose comme une colombe, et non seulement la vision, mais la voix. « Toi, tu es mon Fils, le bien-aimé, en qui j'ai mis ma complaisance. » Donc, la prière de Jésus préliminaire à cette théophanie dans la foulée de son baptême. Autre moment important, c'est avant le choix des 12. Je suis au chapitre 6, le verset 12. Or il arriva en ces jours que lui, Jésus, sortit dans la montagne pour prier. Et il passait toute la nuit dans la prière de Dieu. Et quand arriva le jour, il interpella ses disciples, ayant choisi parmi eux 12, qu'il nomma aussi apôtres. Et que vous donnez les noms. Donc, avant que Jésus ne choisisse parmi ses disciples les 12, il les a comme d'avance sans doute portés, discernés, dans la prière, et lui qui insiste toute la nuit, il est en prière devant Dieu. Avant la profession de foi de Pierre aussi, c'est au chapitre 9, le verset 18. Il arriva, pendant que lui, Jésus, priait seul, mais que les disciples étaient avec lui, il les questionna en disant « Qui les foules disent-elles que je suis ?» Et puis ça sera la question « Et vous, que dites-vous que je suis ?» Donc, avant de poser cette question, Jésus était en prière, comme s'il allait avoir le souci d'introduire progressivement ses disciples à son identité profonde. On va voir que ça prendra du temps. Donc, avant cette belle profession alors de foi de Pierre. Autre épisode important, et c'est dans la foulée, l'épisode de la transfiguration. Au chapitre 9, toujours, non plus le verset 18, mais le verset 29. Après donc la profession de foi de Pierre, et puis l'annonce que pour suivre Jésus, eh bien, il faut perdre sa vie, déjà à ce moment-là, au chapitre 9. Après ces paroles, environ 8 jours après, il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur une montagne pour prier. Et il arriva, pendant que lui priait, que l'aspect de sa face devint autre, son manteau blanc fulgurant, et voici, deux hommes parlaient avec lui, Moïse et Élie, vus dans la gloire. C'est donc la transfiguration. Et de nouveau, la voix céleste va confirmer Jésus dans son être filial. Au verset 35, une voix arriva de la nuée, « Celui-ci est mon fils, le choisi, écoutez-le. » Donc, c'est à des moments au baptême, bien ici, pour le choix des 12, où Jésus a été spécialement en prière devant son Père, et bien que le Père aussi va le confirmer aux yeux et à l'oreille de ceux qui sont là présents comme son fils. Avant l'enseignement du Notre Père, là nous sommes en 11.1, il arriva, pendant que lui priait en un certain lieu, donc ça reste un peu vague, indéterminé, mais ça va être les mots de la prière qui seront importants. Pendant que lui priait en un certain lieu, comme il avait cessé, un de ses disciples dit à son adresse, « Seigneur, enseigne-nous à prier, selon que Jean, Jean-Baptiste aussi, enseigna à ses disciples. » Donc ce disciple a attendu que Jésus ait fini sa prière respectueusement, et puis c'est en le voyant prier qu'il a l'idée de lui dire, « Mais enseigne-nous à prier. » Et à ce moment-là, Jésus va enseigner le Notre Père. Il y a encore cette déclaration de Jésus comme quoi il a prié pour Pierre. C'est au chapitre 22, le verset 32. Simon, Simon, voici, le Satan revendiqua de vous cribler comme le blé. Mais moi, j'implorai à ton sujet, afin que ta foi ne fasse pas défaut. Et toi, une fois que tu seras revenu, affermis tes frères. Donc Jésus pressent que Pierre aura peut-être une faiblesse, mais il a d'avance prié pour qu'au moins sa foi ne fasse pas défaut. D'où les larmes de repentir de Pierre, et que, une fois revenu, il affermisse ses frères après bien sûr, la résurrection. Enfin, la mention de la prière de Jésus à Gethsémani. C'est au chapitre 22, les versets 40 à 46, ça vous le connaissez, comment Jésus invite ses disciples à prier et comment, surtout, on voit de nouveau Jésus en prière lui-même, une prière particulièrement suppliante, instante. Et là, cet épisode de la prière de Jésus à Gethsémani se trouve dans les trois évangiles, les trois synoptiques. Tandis que d'autres insistances de la prière de Jésus, que je viens de rappeler, eh bien, sont propres à Luc. Ceci pour dresser cette perspective de fond, comme quoi chez saint Luc, l'insistance sur la prière à laquelle nous sommes conviés et dont Jésus le premier nous donne l'exemple, bien est vraiment importante. Alors nous en venons à ces deux paraboles qui invitent à justement prier sans se décourager. D'abord celle de l'ami important. je vous invite à voir le texte, c'est sur votre page 35. Alors vous voyez, c'est précisément dans la foulée de l'enseignement du Notre Père. Il arriva, pendant que lui était pris en un certain lieu, comme il avait cessé, un de ses disciples, nous venons de lire ce verset. Et il leur dit, quand vous vous priez, dites, Père, que soit sanctifié ton nom, que vienne ton royaume, notre pain le suressentiel, le plus essentiel, donne-nous chaque jour, remets-nous nos péchés, car nous-mêmes nous remettons à tout qui nous doit. Ça, c'est la version qu'on trouve chez Luc de l'enseignement du Notre Père, où vous voyez que la demande, que ta volonté soit faite, qu'on trouve chez Matthieu, n'est pas reprise ici, à cet endroit-là, par Luc, et non plus le délivre-nous du mal n'est pas repris comme tel. Mais ce qui mérite d'être noté, c'est déjà l'importance du verbe donner. Puisqu'après les deux invocations qui concernent le Père, que soit sanctifié ton nom, que vienne ton royaume, on passe à nos besoins, si je puis dire, notre pain, le suressentiel, c'est une manière de rendre le mot grec qui est épiousion. Un mot un peu difficile à traduire. Eh bien, donne-le-nous chaque jour. Donc déjà, au verset 3, l'importance de ce verbe « donner ». Et précisément, l'objet de la prière d'insistance sera d'obtenir qu'il nous soit donné. Et là-dessus, précisément, au verset 5, Luc embraye sur une parabole qui ne se trouve que chez lui. Il dit à leur adresse « Qui hors de vous aura un ami ?» et fera route auprès de lui à minuit et lui dira « Ami, prête-moi trois pains, puisqu'un ami de moi s'est rendu auprès de moi en chemin et je n'ai pas de quoi lui donner, ce que vous lui remettrez. » Et celui-là, ayant répondu de l'intérieur, dira « Ne me procure pas tant de tracas, déjà la porte se trouve fermée, mes petits-enfants avec moi sont au lit, je ne peux pas, étant dressé, te les donner, ces pains. » Je vous le dis, même si, étant dressé, il ne le donne pas en raison de ce qu'il est son ami, en raison de son impudence, ayant été réveillé, il lui donnera autant qu'il en a besoin. Ça, c'est la parabole. Puis Jésus poursuit. Et moi, je vous dis, réclamez sans cesse, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Cognez, il vous sera ouvert, car tout qui réclame reçoit, qui cherche trouve, qui cogne, il lui sera ouvert. Or, quel père d'entre vous, auquel son fils réclame un pain, lui accordera une pierre ou un poisson, s'il lui accordera à la place du poisson un serpent? Et aussi, auquel il réclamera un œuf et lui accordera un scorpion. Si donc vous, vous trouvant méchant, vous savez donner sans cesse de bons cadeaux à vos enfants, combien plus le Père, qui est hors du ciel, donnera l'Esprit Saint à ceux qui lui réclament. De nouveau, Jésus fait appel à leur expérience. Voyez au verset 5, « Qui d'entre vous a un ami ?» et qui vient toquer à sa porte pour demander du pain. Ils ont déjà connu de telles demandes. Ou bien, au verset 11, « Quel père d'entre vous ?» L'expérience paternelle d'avoir un fils qui demande des choses qui d'entre vous. Et d'ailleurs, la conclusion, « Si donc vous, au verset 13, vous êtes méchant, eh bien, donc Jésus implique vraiment son auditoire à travers ses « vous ». Jésus va insister sur reprise par la formule un peu solennelle au verset 8, je vous le dis, s'il ne lui donne pas simplement par amitié, mais en raison de son assistance, son impudence, eh bien, il lui donnera tout ce dont il a besoin. Je vous le dis, et puis au verset 9, et moi je vous le dis pour insister, réclamer, chercher, frapper à la porte. Une insistance en vague triple. Et Jésus n'a pas peur de répéter, car tout qui réclame, qui cherche, qui cogne, etc. Et de même, en trois temps, pour ce que demande un fils. Il réclame un pain, est-ce qu'il ira lui donner une pierre, un serpent à la place du poisson, un scorpion à la place d'un œuf. Triple image. Cette manière stylistique triple se retrouve à d'autres endroits chez Luc. Par exemple, au chapitre 6, dans le sermon sur le sermon dans la plaine. Chapitre 6, je suis au verset 32. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle grâce est à vous ? Même des pécheurs aiment ceux qui les aiment. Deuxièmement, si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, quelle grâce avez-vous ? Même les pécheurs font de même. Troisièmement, si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez recevoir, quelle grâce avez-vous ? Des pécheurs aussi prêtent à des pécheurs afin qu'ils reçoivent l'équivalent. Et donc, Jésus ressaisit de nouveau en un triple mouvement, plus brièvement, eh bien, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans espérer en retour, ainsi vous serez les fils du Très-Haut, qui lui est bon pour les ingrats et les méchants. Voilà un exemple de cette manière d'insistance triple de la part de Jésus qu'on le retrouve ici. La conclusion est importante. Donc Jésus énonce l'histoire en se basant sur leur expérience. Il en tire déjà une conclusion à l'intérieur même du récit parabolique. Eh bien, il se lèvera et donnera à son ami ce qu'il demande, c'est le verset 8. Et puis, Jésus invite en ce sens à l'insistance, réclamer, chercher, paix. Puis, revient à leur expérience paternelle de ce que demande un père. Et cela prépare évidemment la mention du Père Céleste au verset 13. D'avoir été cherché ainsi une comparaison qui engage la paternité terrestre prépare l'argument a fortiori, comme on dit, en plus forte raison. Si donc vous, qui êtes méchant, de nouveau, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, la difficulté de rendre un comparatif moins bon. Ça ne veut pas dire que nous sommes radicalement méchants, puisque déjà Jésus prend acte de ce que si le fils réclame un œuf, il aura un œuf et pas un scorpion. C'est donc vous qui êtes moins bon, vous savez donner déjà de bons cadeaux à vos enfants, combien plus, c'est là l'argument a fortiori, le Père du ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui réclament. Je ne sais pas très bien à quoi il faut rattacher l'expression du ciel, je serais porté à la rattacher à ce qui suit. Le Père du ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui lui réclament. D'autant plus que trois versets plus loin, on voit que des contradicteurs de Jésus le tentent en cherchant de sa part un signe hors du ciel. Exactement la même expression. Or, Jésus vient d'annoncer que ce qu'il veut nous donner, ce n'est pas des signes grandioses, mais finalement l'Esprit Saint à ceux qui le lui réclament. La version parallèle de Matthieu dit donnera de bonnes choses. Ici, Luc est attentif à souligner que dans l'objet de notre prière, l'Esprit Saint doit trouver aussi sa place, donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui réclament. Qui va dans la ligne de l'insistance que Luc porte volontiers sur l'Esprit Saint, non seulement dans son évangile, bien sûr, dans l'évangile de l'enfance, l'Esprit Saint viendra sur toi, etc., mais aussi dans tous les actes des apôtres où on voit vraiment l'Esprit Saint à l'œuvre et où on voit régulièrement, à commencer par la prière préliminaire au Cénacle dans l'attente de l'Esprit Saint, précisément les disciples avec Notre-Dame durer dans la prière. Et donc, Le Père Céleste donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui réclament. Ça, c'est une invitation à bien mesurer ce contenu essentiel de la prière pour le temps de l'Église. C'est l'Esprit Saint qui, comme on le voit dans les actes, va être finalement l'acteur principal, au sens c'est lui qui fortifie les cœurs et donne aux croyants d'avancer. Voilà pour cette parabole d'insistance, donc dans la foulée de l'enseignement du Notre Père, d'insistance sur la prière. Je passe à la page 36. Là, c'est la parabole relativement parallèle au chapitre 18, c'est un autre contexte, de la veuve qui ne craint pas d'insister dans sa demande auprès du juge pour obtenir raison. Luc, souvent, introduit une parabole en disant déjà sa fonction. Souvenez-vous, au chapitre 15, c'est en voyant que les pharisiens et les scribes récriminaient contre le bon accueil qu'ils fait aux pécheurs, nous dit Luc, que Jésus alors engage les paraboles de la brebis perdue, la traque perdue, le fils perdu et retrouvé pour inviter justement au contraire à faire bon accueil aux pécheurs et à s'en réjouir. Ici, le verset introductif nous dit clairement aussi, si vous voulez, l'enjeu de la parabole. Il leur disait une parabole sur le fait qu'il leur faut prier en tout temps et ne jamais se décourager. Il y avait un certain juge dans une certaine ville qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas l'homme. Or, il y avait une veuve dans cette ville-là et elle venait auprès de lui en disant « Venge-moi de mon adversaire !» Et il ne voulait pas durant longtemps. Or, après ceci, il se dit en lui-même « Même si je ne crains pas Dieu, si je ne respecte pas l'homme, du moins, en raison de ce que cette veuve me procure du tracas, je la vengerai, afin qu'elle ne me casse pas la tête, venant sans cesse jusqu'à la fin. » Or, le Seigneur dit « Entendez ce que dit le juge de l'injustice. Or Dieu ne fera-t-il certes pas vengeance de ses élus qui clament vers lui jour et nuit, même s'il patiente envers eux? Je vous le dis, il fera leur vengeance en promptitude. Pourtant, le Fils de l'homme étant venu, trouvera-t-il de fait la foi sur la terre? » Donc il faut prier avec persévérance, mais une persévérance qui s'enracine dans la foi. Je reprends quelques éléments sur le fait qu'il leur faut prier sans cesse. Vous savez l'importance de « il faut » dans Luc. Sachez aujourd'hui « il me faut demeurer chez toi ». Ne fallait-il pas que le Christ souffre pour entrer dans sa gloire, etc. qui disent que c'est une condition nécessaire pour qu'avance le dessein de Dieu. Il faut. Il me faut être aux choses de mon Père aussi, disait Jésus à Joseph et Marie à l'âge de 12 ans. Il faut prier sans cesse. Un certain juge dans une certaine ville, de nouveau un cadre assez général, qui, vous voyez la transposition, malmène un peu le français en respectant l'ordre des mots dans le grec. Hein. Dieu ne craignait pas et homme ne respectait pas, pour bien faire valoir les mots que la stylistique du grec met en évidence. Donc c'est vraiment un juge sans foi ni loi, ni devant Dieu sans foi, ni devant les hommes sans loi. Il y avait une veuve dans cette ville-là, dans cette ville-là, voyez l'importance de bien choisir les traductions quand le texte est destiné à la lecture liturgique publique. Il faut éviter des quiproquos. Il y avait une veuve dans cette ville-là, et elle venait auprès de lui en disant « Venge-moi de mon adversaire ». L'adversaire, dans le grec, c'est l'antidikos, c'est-à-dire celui, le contre-droit. Qui va contre le droit. L'injustice, ça sera au verset 6, entendit ce que le Dieu de l'injustice, ça sera l'adikia. Vengement de mon adversaire, et il ne veut pas pendant un long temps. Ce qui veut dire que pendant un long temps, elle doit insister et persévérer. Mais finalement, justement, patience et longueur de temps font plus que force ni courage, dit une femme de La Fontaine, mais ici c'est appliqué à la persévérance dans la prière. Il se dit en lui-même, oui, même s'il ne craint pas Dieu, ne respecte pas. Hein? Donc il a l'air d'être bien conscient de sa propre médiocrité. Mais, tout médiocre qu'il soit, pour avoir la paix, il va rendre justice. Je la vengerai, afin qu'elle ne fasse casse pas la tête, venant sans cesse près de moi. Le Seigneur, c'est la manière dont Jésus, dont Luc nomme Jésus ici. Le Seigneur dit, entendez ce que dit le juge de la justice, et Dieu ne fera-t-il pas vengeance de ses élus? Donc ça, c'est l'argument a fortiori qu'on a déjà rencontré dans l'Alliance important. Même si un père céleste est déjà capable de donner de bonnes choses à ses enfants, eh bien, à plus forte raison, le Père céleste. Même si un juge médiocre est déjà capable, finalement, de rendre la justice, à plus forte raison, combien plus, Dieu fera-t-il vengeance de ses élus qui clament vers lui jour et nuit. Une expression, jour et nuit, qui dit la persévérance, la durée, la semence jetée en terre, souvenez-vous, chez Marc, qu'il dorme, qu'il veille, de jour, de nuit, elle continue à pousser. Et dans les psaumes, il y a un beau recueil, un beau livre de Paul Beauchamp, intitulé Psaumes, nuit et jour. Et dans les psaumes aussi, c'est une prière qui peut monter vers Dieu dans le jour et aussi la nuit, dans l'insomnie, qui clame vers lui jour et nuit. Eh bien, il patiente, je vous le dis, il leur fera vengeance en promptitude, c'est-à-dire il les exaucera. Le terme vengeance ici est utilisé parce que précisément, je dirais, il y a une injustice grave qui est subie et qu'il faut pouvoir obtenir justice par rapport à cela. Je vous lis un passage du livre du Siracide, Ben Sirac le Sage, au chapitre 35, qui montre déjà combien nous sommes invités à durer ainsi dans la prière et combien, surtout, Dieu sera sensible à la prière, particulièrement du pauvre, de la veuve et de l'orphelin. Donc, le livre du Siracide, chapitre 35, le verset 19. Le Seigneur, ne se laisse pas d'abord verset 14, n'essaye pas de corrompre le Seigneur par des présents, il les refuse. Ne t'appuie pas sur un sacrifice injuste, car le Seigneur est un juge, en l'occurrence, qui ne fait pas exception de personne. Pas de différence entre les personnes. Il ne considère pas les personnes pour faire tort aux pauvres, il écoute l'appel de l'opprimé. Il ne néglige pas la supplication de l'orphelin, ni de la veuve, qui épanche ses plaintes. Les larmes de la veuve ne coulent-elles pas sur ses joues? Et son cri n'accable-t-il pas celui qui les provoque? Celui qui sert Dieu de tout son cœur est agréé et son appel parvient jusqu'aux nuées. La prière de l'humble pénètre les nuées. Tant qu'elle n'est pas arrivée, il ne se console pas. Il n'a de cesse que le Très-Haut n'ait jeté les yeux sur lui, qu'il n'ait fait droit juste et rétablit l'équité. Et le Seigneur ne tardera pas, il aura patience à leur égard, tant qu'il aura brisé les reins de gens sans pitié, tiré vengeance des nations, etc. Donc rétablit la justice. Vous voyez que ce passage de l'Ecclésiastique, au chapitre 35, les versets 14 à 26, prendre ensemble, eh bien, souligne comment Dieu est sensible à cette prière insistante et spécialement cette prière du juste qui épanche son cœur et ses larmes devant lui pour l'exaucer. la finale, le verset 8. Donc, Jésus vient de promettre les ossements. Je vous le dis, il fera leur vengeance en promptitude. Pourtant, le Fils de l'homme étant venu, trouvera-t-il de fait la foi sur la terre? Il y a eu un reproche précédemment d'homme de peu de foi, chapitre 12. Il y a eu une demande des disciples même au chapitre 17, c'est les références que vous avez dans le texte. Augmente en nous la foi. Et Jésus dit, priez sans vous décourager, et ça suppose que vous gardiez la foi jusqu'au bout. Nous terminons, si vous voulez, par une parabole qui nous dit la juste attitude de la prière. Avec le Notre Père, on a eu des mots pour la prière. Avec ces deux paraboles, on a eu l'importance d'insister, de persévérer dans la prière sans se décourager. Et maintenant, l'esprit d'humilité dans lequel prier. Et c'est la parabole qui enchaîne d'ailleurs, dans le texte de Luc que nous venons de voir. Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre? Et puis verset 9, il dit aussi cette parabole à l'adresse de quelques-uns qui se trouvaient persuadés en eux-mêmes qu'ils étaient des justes et qui tenaient pour rien le reste des hommes. Déjà, la couleur est annoncée, comme je vous disais, Luc ne craint pas d'indiquer la pointe de la parabole qu'il va rapporter, raconter. Un peu comme dans certaines fables de La Fontaine, la morale vient à la fin, mais parfois elle est annoncée avant. La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure. Et puis il raconte la fable de l'agneau, et du loup et de l'agneau. Et donc il donne la morale de la fable avant. Et Luc, il donne la perspective spirituelle, je ne vais pas parler de morale, de la parabole ici, dès le seuil. Deux hommes montèrent vers le temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, s'étant placé debout, priait ainsi à l'adresse de lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas tout comme le reste des hommes, rapace, injuste, adultère, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, j'acquitte la dîme sur tout ce que je possède. Or, le publicain, se tenant debout de loin, ne voulait même pas lever les yeux vers le ciel, mais battait sa poitrine en disant, « Ô Dieu, sois favorable à moi le péché. » Je vous le dis, celui-ci descendit, se trouvant justifié, vers sa maison. Différemment de celui-là, pharisien, parce que tout qui s'exalte lui-même sera humilié, tout qui s'humilie lui-même sera exalté. Une manière admirable de Jésus de croquer deux attitudes à travers les paroles, mais aussi les positions, les attitudes corporelles. Il dit cette parabole à l'adresse de ceux qui sont persuadés en eux-mêmes d'être des justes. Et précisément, au verset 11, le pharisien, il prie à l'adresse de lui-même. Il se loue lui-même sous prétexte de rendre grâce à Dieu. Et à la fin, parce que tout qui s'exalte soi-même sera humilié. Mais au contraire, celui qui s'humilie lui-même sera exalté. Persuadé d'être des justes. On vient de voir que la femme, dans la parabole, a obtenu justice. Et la finale, au verset 14, celui-ci se trouvant descendu, justifié vers sa maison. Ça, c'est la manière de Luc de dire que cet homme est pardonné. Et Luc a été compagnon de Paul. Paul parlera de la justification pour nous signifier la miséricorde que Dieu accorde. Ici, la miséricorde est accordée précisément aux publicains. Le contraste des attitudes, le pharisien debout, le publicain aussi se tient debout, mais de loin. le propos ample du pharisien qui détaille, je ne suis pas comme les autres, etc., je fais ceci. Le propos extrêmement sobre du publicain, ô Dieu, sois favorable à moi, le pécheur. C'est tout. Et là-dessus, la conclusion que tire Jésus, eh bien, à la différence de l'autre, lui, il rentre justifié chez lui. Et la parabole se termine. C'est sans doute Jésus encore qui parle, à moins que ce soit lui qui prenne le relais. Tout qui s'exalte lui-même sera humilié, qui s'humilie lui-même sera exalté. Cela, on retrouve une perspective, bien sûr, qui était annoncée dès le début de l'Évangile dans le Magnificat de Notre-Dame. Il renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles, par contre, ou bien que l'on rencontrera comme conclusion aussi de la parabole de ceux qui se ruent dans les repas sur les premières places. Et Jésus fait comprendre que ce n'est pas la bonne manière, il faut être beaucoup plus humble, et ce sera cette manière de conclusion qu'il utilisera là-bas aussi. Voilà, je vous remercie de votre attention, on va terminer là. Je vous remonte une dernière fois l'image de ce que nous avons vu au début, la parabole de prévoyance qui consistait, vous vous en souvenez, à se dépouiller pour arriver à être disciple de Jésus et le suivre jusqu'au bout. Merci de votre attention et à lundi prochain.